Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de lire un texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 10, les versets 1 à 11. Avant de lire le texte, reprenons le cours des événements dans son contexte. Il y a quelque temps déjà, j'ai choisi de commenter le passage où le peuple d'Israël demande à être gouverné par un roi comme les peuples voisins. Dieu avait prévu qu'un jour cela arriverait dans l'histoire du peuple descendant d'Abraham. Et dans ce cas-là, d'après Deutéronome 17, les versets 15 à 20, le roi devait être choisi parmi les frères, son armée devait être de taille réduite, non offensive, son train de vie devait être modeste, sa gestion du pays devait être désintéressée et son activité principale serait de recopier les lois de l'Éternel pour s'en imprégner et les mettre en pratique dans son royaume. Au moment où les fils de Samuel, appelés à lui succéder, s'adonnent à la cupidité, à la corruption et à l'absence de justice, les anciens d'Israël, en manque d'imagination, demandent à être dirigés par un roi comme il y en a chez toutes les nations. Samuel avertit le peuple des conséquences de ce changement politique. Le roi, comme tous les rois, cherchera à constituer une armée puissante en hommes issus du peuple et en matériel, des chars, des chevaux. Des hommes seront exclusivement au service du pouvoir royal pour la production de nourriture et d'armes de guerre. Les femmes seront au service de l'intendance de la cour royale. Les impôts seront prélevés sur le travail de tous, au point que les gens du peuple auront l'impression de vivre en esclavage. Malgré ces avertissements, les anciens du peuple persistent « Nous voulons un roi !» Et Samuel reçoit au final cette parole de l'Éternel, chapitre 8, verset 22, « Établis un roi sur eux. » Un jeune homme, nommé Saül, beau et grand, il les dépasse tous de la tête, à la recherche des ânesses de son père, parcourt le pays. Sa quête le conduit à rencontrer Samuel, dont on raconte, le verset 6, « Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Alors, des fois qu'il ait une indication sur les ânesses égarées. Samuel, en relation avec Dieu, était divinement averti que Saül viendrait à sa rencontre en marge d'une cérémonie de sacrifice sur le haut lieu. Et cet homme deviendra le roi voulu par les anciens d'Israël. Il règnera avec une mission, sauver le peuple de la main des Philistins. Le texte dit qu'autour d'un bon repas, une épaule et ce qui l'entoure, et d'un entretien en tête à tête, et après une bonne nuit de repos, arrive le jour où la royauté est mise sur les rails en toute discrétion. Samuel, Saül, sans son serviteur, et Dieu dont Samuel est l'interprète. Nous lisons donc en 1 Samuel 10, les versets 1 à 16. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?»« Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tseltsach. Ils te diront « Les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine debout et dit « Que dois-je faire au sujet de mon fils ?» De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de l'arc, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. « Qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de Gibéa répondit, « Et qui est leur père ?» De là le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés ?» Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Curieuse histoire de l'Ancien Testament. Changement de régime politique dans la grande famille des descendants d'Abraham. Ce peuple choisi, appelé à être une nation exemplaire. Administré jusque-là par des juges, elle devient un royaume avec sa tête un roi, agréé néanmoins par Dieu. Samuel indique le chemin à suivre par Saül. Les ânesses perdues passent au second plan. Saül parcourt le pays, rencontre d'autres personnes dans d'autres lieux, approche une garnison de Philistins et s'intègre à une troupe de prophètes qui l'accompagne dans cette étape décisive de sa vie où l'Esprit de l'Éternel le saisit et le change en un autre homme, lui donne un autre cœur, dit le texte. Le changement se voit, les gens qui le connaissent s'interrogent. Qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, l'auteur du livre de Samuel mentionne une troupe de prophètes. D'autres personnages antérieurs sont occasionnellement qualifiés de prophètes comme Abraham ou Moïse, mais c'est la première fois que l'on mentionne une troupe de prophètes connue de Samuel, à croire qu'il est à l'origine de ce nouveau métier. Des hommes et probablement des femmes formés dans la connaissance de la loi juste et bonne de Dieu, capable de communiquer et d'interpeller le peuple et ceux qui le gouvernent. Comme si Samuel avait ouvert une école de prophètes comme contre-pouvoir au pouvoir du roi, dont on savait qu'ils défendraient d'abord leurs propres intérêts et suivront leurs ambitions en dehors du projet de Dieu pour son peuple. Les prophètes formés et efficaces pour exalter les foules, pour interpeller les dirigeants politiques, pour les mettre face à leur devoir de justice. Des prophètes formés pour leur rappeler que si pouvoir ils ont, Dieu reste souverain et n'accorde ce pouvoir que pour un temps donné. Je vous propose ce matin 3 récits où les prophètes interpellent et affrontent l'autorité politique au risque de leur vie. Premier récit, David, le successeur de Saül, dans un moment d'égarement, commet un adultère avec Bathsheba et devient le commanditaire du meurtre de son mari pour s'approprier la femme devenue enceinte. David est le roi. Il n'a le compte à rendre à personne. Sauf que Nathan, le prophète, veille. Vêtu de son manteau de fourrure et de son pagne en cuir, il rencontre David et nous lisons le récit en 2 Samuel 12, les versets 1 à 15. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, le pauvre n'avait rien du tout. » Qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. » La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan : « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David : « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan : « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David : « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre. L'intervention du prophète dénonce le crime, le met en lumière sur la place publique en présence de tout Israël et à la face du soleil. Le pouvoir apparent, tout puissant de David, vacille. Le prophète révèle le mal, rappelle que le pouvoir de David vient de Dieu, prononce la sanction. David reconnaît son péché. L'Éternel pardonne. Il ne mourra pas immédiatement. Mais l'enfant né de la relation adultère tombera malade et mourra. Le prophète Nathan a agi au nom de l'Éternel pour dénoncer et rendre public le meurtre et l'adultère de David. Deuxième récit. Élie affronte Akab. On dit d'Akab en 1 Roi 16, verset 30 à 33, qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que font tous ceux qui avaient été avant lui. Il prit pour femme Jézabel et il fit la promotion du culte idolâtre de Baal et d'Astarté pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Élie le rencontre pour lui annoncer une sécheresse durable, synonyme de famine, de troubles sociaux, de pauvreté et de misère. Élie est incité à se cacher, nourri par les corbeaux et par une veuve étrangère. Les prêtres des dieux païens, des récoltes et de la fertilité, prouvent leur impuissance et leur charlatanisme. Les services secrets d'Akab n'arrivent pas à localiser le prophète. Élie finit par réapparaître et rencontre le roi. L'entretien est bref. Le roi demande : « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël ? » Élie répond : « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est le premier commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles et tu ne les serviras pas. » La base d'une relation avec Dieu. Vous connaissez la suite de l'histoire ? Un défi public est lancé, les prêtres de Baal n'obtiennent aucune réponse de leur divinité. Le Dieu d'Israël révèle publiquement sa puissance et la fin de la sécheresse arrive. Jézabel est folle de rage face à ces événements et Élie est à nouveau obligé de fuir. L'idolâtrie ne peut pas coexister avec le culte voulu par l'Éternel pour son peuple. Le rôle du prophète est de dénoncer publiquement, même au risque de sa vie, les mauvais choix des autorités politiques en matière culturelle et religieuse. Troisième récit, Amos. un prophète berger de formation qui dénonce toutes sortes de comportements qui offensent l'Éternel du temps de Jéroboam II, roi d'Israël, et d'Ozias, roi de Juda. Une période plutôt paisible et prospère. Amos 2, versets 6 et 7. Donc ils fustigent le peuple parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Chapitre 3, verset 10. Ils ne savent pas agir avec droiture. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Chapitre 4, verset 1. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents. Chapitre 5, verset 12. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Et chapitre 8, verset 5 et 6. Vous augmentez les prix, vous falsifiez les balances pour tromper, puis vous achetez les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et si Amos écrivait encore de nos jours, il aurait sûrement rajouté un verset du style « Vous leur vendez des colis bacilles avec vos pizzas, des listeria avec vos fromages et des salmonelles avec vos kinder pour nous rendre malades. » Dénoncer l'injustice sociale, la misère et la pauvreté, conséquence des mauvais comportements humains, c'est également le rôle du prophète. Amos suggère même que toute personne qui pratique les injustices sociales instille un poison mortel dans son propre univers de vie, un poison qui finira par l'atteindre lui-même. Par conséquent, tous ceux qui bafouent la justice et le droit sont des personnes insensées et déraisonnables. Amos nous révèle que toute société dont les habitants légitiment les injustices pour s'enrichir est une société qui marche à l'envers, une société dont la durée de vie est comptée. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Lorsque la loi n'est plus respectée et que le droit est corrompu, le prophète rend public le scandale et annonce les conséquences pour les individus comme pour la société en général. Venons-en à l'actualité. En dehors des pizzas, des kinder, notre monde contemporain dans lequel nous vivons notre vie de chrétiens, d'enfants de Dieu. La Bible, parole de Dieu, ne nous dit pas seulement que nous sommes appelés à reconnaître notre état de pécheur, d'accepter l'œuvre de Christ pour notre salut, par son sacrifice sur la croix et pour une vie éternelle en sa présence après notre vie terrestre. 50 pages suffiraient si c'était le seul message de la parole de Dieu. Notre vie sur terre n'est pas simplement une vie spirituelle faite de prières et de participation occasionnelle aux activités organisées par les églises. Notre vie chrétienne doit bien se vivre au quotidien dans un contexte local, national et international. La Bible nous donne les bases, les 10 commandements et toutes les précisions sur la vie en société, la vie en tant que peuple de Dieu dans les textes de loi des premiers livres de l'Ancien Testament. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Les livres des prophètes dénoncent, fustigent les dérives et les abus liés à l'exercice du pouvoir et aux inégalités sociales à l'origine de dysfonctionnements qui amènent des catastrophes, souvent atténuées quand même par la compassion de Dieu lui-même, pour l'humanité. Comme par exemple Jonas qui prédit la destruction de Ninive et qui ne se réalise pas. De nos jours, où sont les prophètes pour dénoncer les mauvais choix de nos gouvernants à l'origine de précarité, de tensions sociales, de concentration de richesses et de pauvreté en conséquence, chez nous et dans le monde au XXIe siècle? Certes, de grands progrès ont été possibles dans les siècles passés. L'abolition de l'esclavage, la lutte contre les ségrégations raciales, en particulier en Amérique du Nord, Martin Luther King, et en Afrique du Sud, Nelson Mandela. L'abolition de la peine de mort dans la plupart des pays qui cherchent à évoluer un petit peu. Le droit à l'éducation, l'école pour tous, qui permet à l'individu d'accéder à la culture, voire même à la lecture de la parole de Dieu, traduite à ce jour en de nombreuses langues par des linguistes dévoués comme Doris Weiss au Tchad, Martine et Paul Solobianco au Burkina. L'égalité en droit des hommes et des femmes, malgré les différences physiologiques naturelles, avec son corollaire de la dénonciation des abus dits sexuels dans la société, y compris dans les églises de toute confession, même chez les Mennonites, comme décrit et dénoncé dans l'avant-dernier Christel par Salomé Haldeman, pasteur stagiaire dans nos églises. Dénoncer l'injustice, la pauvreté, la misère, c'est notre devoir, même si nous ne remettons pas la vie traditionnelle du prophète. Le défi Miché, organisation chrétienne internationale, a pour but d'agir pour rappeler aux dirigeants de ce monde leurs promesses. En l'an 2000, les États membres de l'ONU ont pris ensemble l'engagement connu sous le nom de Déclaration du millénaire, réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015. Quel résultat en 2022. Le monde occidental, en guerre avec la Russie, au lieu de consacrer des moyens humains et financiers à la réduction de la pauvreté, à la promotion de la paix dans le monde, les dépenses pour les armes offensives comme défensives atteignent des sommets jamais atteints en 2021. Et en 2022, nous sommes sur la bonne trajectoire pour exploser, si j'ose dire, ces records. Certains disent que si tu veux la paix, prépare la guerre. En latin, civis pacem para bellum. C'est une hérésie. Si nous voulons la paix, nous devons préparer la paix et y consacrer des moyens humains et matériels, à commencer par l'éducation de tous, en particulier pendant la période scolaire. En tant que chrétiens, si nous ignorons le monde, nous trahissons la parole de Dieu qui nous envoie dans le monde. Si nous ignorons la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, nous n'avons rien à apporter au monde. Nous sommes amenés à proclamer et mettre en pratique l'Évangile, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour fraternel qui nous unit. Être, faire et dire comme Jésus. Voilà le cœur de notre mission. Nous sommes appelés à certains moments à une attitude prophétique selon Proverbe 31, versets 8 et 9. Ouvre ta bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer le juste verdict. Défendre les droits des malheureux et des pauvres. Pour conclure, dans les textes du jour, nous avons entendu Acte 5, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Cette parole courageuse prononcée par Pierre et qui a été à deux doigts de lui coûter la vie, ainsi qu'aux autres apôtres. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est le message des prophètes. Dénoncer l'injustice, la corruption, la cupidité, la misère sociale, c'est notre devoir. Actuellement, dans nos milieux, nous avons une forte tendance à privilégier d'autres textes qui appellent à la soumission aux autorités. Romains 13, verset 1 à 7, ou 1 Pierre 2, verset 13. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » La soumission aux autorités, notre respect des lois de la République qui nous concernent, ne nous oblige pas à la complaisance ou à l'acceptation inconditionnelle des lois qui engagent l'évolution de notre société. À nous de prendre position dans nos échanges avec nos proches, dans nos engagements professionnels et associatifs, dans nos choix électoraux, pour promouvoir le projet de Dieu pour l'humanité, la restauration de sa création, l'établissement de son royaume de paix que nous appelons à venir dans nos prières. Amen.